Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de louange et d'adoration. Merci d'avoir accueilli favorablement nos prières, nos chants et nos cantiques. Merci de nous avoir donné la force pour pouvoir, Seigneur, nous mouvoir en ta présence. Quelle grâce d'entrer dans ta présence, quelle grâce d'y demeurer, quelle grâce, ô Dieu, de se tenir devant ta face pour te contempler dans toute ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de grandir dans le domaine de la prière, dans le domaine, Seigneur, de la louange et de l'adoration. Ô, aide-nous à rester dociles, à rester enseignables, et à savoir qu'il y a encore de choses à apprendre dans ce domaine. Seigneur, merci. Parle-nous. Ô Dieu, dépose sur nos cœurs ta pensée. Visite-nous puissamment au travers de ta parole. Que ce matin, nous puissions comprendre, comme nous l'avons vu le dimanche dernier, que nous sommes appelés à être, et nous sommes l'argile entre tes mains. Seigneur, entre les mains du divin potier, et nous voulons te donner l'occasion de nous travailler, Seigneur, d'œuvrer en nous afin de nous donner la forme qui te convient selon ton bon vouloir et de faire de chacune de nos vies un instrument de choix pour la manifestation de ta gloire ici-bas. Seigneur, merci. Bénis ton serviteur, assiste-le par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Nous allons donc revenir sur notre thème de la fois dernière, à savoir être l'argile dans la main du divin potier. Alléluia. Nous sommes l'argile, il est le divin potier, et entre les deux, il y a une relation, et comme je l'avais souligné, ou je l'ai souligné le dimanche dernier, nous allons regarder, nous allons considérer de manière singulière cette relation qui unit l'argile au potier, cette relation qui unit le serviteur que nous sommes appelés à être à notre maître, à savoir Jésus-Christ. Et beaucoup de problèmes surgissent dans notre marche avec Dieu, soit parce que nous n'avons pas compris la nature de cette relation, ou soit nous prenons toutes les vérités en rapport avec notre relation avec le Seigneur, nous les prenons à la légère, ou soit nous n'avons encore rien compris. Nous ne pouvons être de véritables serviteurs que dans la mesure où nous vivons pleinement cette relation que le Seigneur entretient avec nous. Alléluia. Et gloire à Dieu. Nous allons donc relire notre passage de la fois dernière, à savoir Jérémie 18. Les 6 premiers versets. Jérémie 18. Les 6 premiers versets, nous lisons « Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel ? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Être l'argile, et nous verrons pas n'importe quel type d'argile, être l'argile entre les mains du divin potier, quelle image pertinente pour illustrer, mes amis, le rapport, la relation qu'il y a entre d'un côté, nous, ses enfants, appelés à être ses serviteurs, et de l'autre côté, notre Sauveur bien-aimé, appelé à être le Seigneur de notre vie, alléluia. Entre les deux, il y a une relation. Comme nous en trouvons entre le potier d'un côté et l'argile de l'autre côté. Et dans cette relation, c'est donc le potier qui reste le maître. L'argile n'a d'autre choix que de veiller à ce qu'il puisse remplir certaines conditions quant à l'état de ce qu'il est appelé à être, car le potier ne peut travailler l'argile qu'à certaines conditions. Et puis ensuite, cette argile doit demeurer entre les mains du potier, afin que le potier puisse travailler cette argile, qu'il puisse œuvrer avec cette argile et lui donner la forme, non pas selon le souhait de l'argile, mais plutôt selon son bon choix. Il reste le maître en tout et pour tout, alléluia. Et pour nous faire comprendre, mes amis, l'importance, la nécessité de cette relation qui unit le potier à l'argile, et par-delà cette relation, comprendre que nous sommes appelés à être serviteurs et servantes de Dieu avant de nous mettre à servir, nous avons vu comment nous avons en face de nous deux conceptions par rapport à cette notion des serviteurs. Il y a la première conception, c'est la conception du serviteur selon le monde. Voyez-vous? Et puis ensuite, de l'autre côté, il y a la conception, il y a la vision, il y a l'image du serviteur de Dieu selon Dieu. Et les deux conceptions sont diamétralement opposées. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, nous avons été fortement influencés par la manière dont le serviteur agit selon le monde. Nous avons été fortement influencés, voyez-vous, par cette conception du monde en ce qui concerne le service, mais aussi le serviteur, c'est-à-dire l'homme ou la femme appelé à servir. Et nous allons voir toute la difficulté qu'il y a entre le mot service et servitude. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de servitude sans que cela nous renvoie l'image d'un asservissement, l'image de quelqu'un qui sera servi, vampirisé par son maître. Ça, c'est la servitude. Et puis, il y a le service. Au point où nous préférons parler du service chrétien, et non pas de la servitude à Dieu. Oui ou non? Puisque nous avons été sauvés pour la liberté, etc. Mais n'oublions pas que dans le contexte biblique, le mot servitude existe bien dans le rapport entre Dieu et ses serviteurs. Et nous le verrons. C'est pourquoi il faudra même créer, j'essaie de réfléchir, de regarder autour de ce verbe, de ce concept de service, en disant service et servitude sont deux choses différentes, mais comment nous faire comprendre que cette relation que nous sommes appelés à avoir avec Dieu est une relation de servitude positive. Alors j'ai trouvé cet adjectif positif pour dire que ça n'a rien à voir avec la servitude que le diable nous impose. L'asservissement que le diable, nous impose, nous le verrons. Et ce qui m'a conduit à utiliser, que les membres de l'Académie française m'en excusent, créer un verbe servituder. Voilà. Autant servir, et puis autant servituder. Mais enfin, nous y arriverons. Gloire au Seigneur. Et nous avons donc vu que dans le monde, un serviteur est au service de son maître, au service de son patron. Et pour mieux servir son maître, il doit connaître sa volonté. Il va vers le maître et le maître lui dit ce qu'il attend de lui. Et puis ensuite, le serviteur part seul pour accomplir toute la volonté de son maître. Le maître ne l'accompagne pas dans les différentes tâches qu'il attend de lui. Le maître ne lui vient pas en aide. Voyez-vous? Il s'en va tout seul pour pouvoir servir. Vous voyez? Et dans le monde, plutôt dans le royaume de Dieu, nous avons tendance à reproduire ce schéma. parce que nous avons entendu, parce que on nous a recensé en plus d'une voix, que nous sommes sauvés pour servir. Et nous nous sommes levés pour essayer de servir par tous les moyens. Nous nous sommes levés pour conjuguer ce verbe, vaille que vaille, quoi qu'il en soit, autant que faire se peut, parce qu'il faut absolument servir. Et nous avons oublié que du point de vue de la parole, ce qui est important, ce n'est pas tant le service. Ce qui est important, c'est d'abord avant tout l'être humain, la personne derrière le service. Car l'action de Dieu, au cœur de l'action de Dieu, au cœur de l'activité de Dieu, il y a l'homme. Et l'homme, encore l'homme, est toujours l'homme. Quand je parle de l'homme, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend à gauche à droite, je parle de l'être humain, c'est donc dans le sens générique du terme, c'est-à-dire la personne. Alléluia. Et donc, nous pensons que lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'il nous montre les tâches que nous devons exécuter pour lui, et il le fait à travers sa parole, puisque nous trouvons dans la parole toutes sortes de directives, toutes sortes d'injonctions de la part du Seigneur, toutes sortes de commandements en rapport avec sa volonté pour nous, et nous pensons qu'alors nous pouvons nous lever et aller pour servir, pour accomplir telle tâche, pour accomplir telle autre tâche. Alors que selon Dieu, dans la perspective du service, d'après Dieu, ce n'est pas ça que Dieu nous demande, alléluia. Il veut être à l'œuvre en tout. Autant il nous a sauvés par grâce, il nous a amenés à lui, il nous a donné la capacité de nous repentir, de reconnaître, mes amis, la nature abominable et horrible de notre personnalité, autant il nous a donné la force de croire en Christ, puisque la Bible nous dit c'est par la grâce. C'est-à-dire, il n'y a rien que nous puissions faire qui amène quelqu'un au salut. Le salut est un don gratuit. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Et donc tout commence par la grâce. Et parler de grâce, c'est parler de Dieu qui est à l'œuvre, indépendamment de nos efforts, de notre force, de notre capacité intellectuelle ou morale. Et à partir de ce moment, eh bien, nous devons savoir que Dieu veut poursuivre cette œuvre de grâce dans nos vies et à travers notre vie. Alléluia. Et même dans ce qu'il nous demande de faire, il veut, lui, le faire par nous, avec nous et à travers nous. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Donc vous voyez toute la différence. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du serviteur de Dieu selon la parole de Dieu, le serviteur de Dieu selon la Bible, encore une fois le serviteur ou la servante. Et donc, nous avons vu la conception du monde concernant le service et la notion des serviteurs. Et maintenant, nous allons voir très rapidement la conception que la Bible, la révélation, l'image, l'image ou la vision de serviteur selon la Bible. Eh bien, la conception du serviteur et du service selon Dieu est tout à fait différente de la conception du monde. Être serviteur de Dieu ou servante de Dieu, selon la parole de Dieu, n'a rien à voir avec le fait d'être au service d'un homme, d'être serviteur d'un homme, d'être serviteur de la République, que sais-je. Ça n'a rien à voir, et nous l'avons vu pleinement. Être au service de Dieu, être serviteur ou servante de Dieu, eh bien, est un apprentissage, et nous allons le voir. C'est un apprentissage parce que on ne peut pas s'improviser serviteur ou servante. Ce n'est pas parce que vous êtes actif. Ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de choses dans le cadre de l'œuvre de Dieu que vous seriez serviteur selon Dieu. Pas du tout. Comme nous l'avons vu, Eh bien, beaucoup de gens s'élancent dans toutes sortes d'activités. Et avec le temps, ils se retrouvent en train de faire ces choses-là, soi-disant pour Dieu, mais en réalité, ils le font pour être vus. Ils le font à contre-cœur. Ils le font parce que c'est une sorte de devoir moral. Ils le font par obligation, par contrainte. Dieu n'a que faire de tout ça. Il veut que nous le suivions par amour. Il veut que nous fassions tout par amour. La motivation derrière, tout service envers Dieu, tout service envers l'Église, doit être l'amour, encore l'amour et toujours l'amour. Alors que dans le monde, le serviteur n'a que faire des motifs derrière le travail qu'il fait. Et nous l'avons vu, et vous le savez. Il peut arriver que le serviteur dans le monde accomplisse ce qu'on lui demande en murmurant, en maugréant, en insultant même son patron ou son maître, oui ou non? Oui, il n'a pas besoin d'aimer son maître. Il fait ce travail par devoir. Il a besoin d'argent et il le fait. Peu importe le sentiment qu'il y a dans son cœur, il n'est pas appelé à aimer son maître. Non, il le fait parce qu'il a besoin d'argent. Il le fait parce que c'est une obligation. Le maître lui impose sa volonté. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Peu importe son état. Et il part pour accomplir ça en comptant en tout et pour tout sur lui et lui seul. Mais avec le serviteur de Dieu, il n'en est pas ainsi. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes, avec le temps, finissent par s'épuiser. Voyez-vous, ah, le fardeau est très pesant pour moi. Mais le Seigneur ne te demande pas de prendre son fardeau. Et nous le verrons, c'est un critère pour savoir si vraiment ce que nous faisons vient de Dieu. Il a dit, mon joug est léger. Mon joug est tendre, alléluia. Eh oui. Il ne peut pas, mes amis, permettre à ce que le travail nous écrase. C'est parce que nous voulons le faire par nous-mêmes. Nous voulons être vus. Nous voulons être reconnus comme l'homme le plus intelligent, comme l'homme qui parle bien. Alors on est à gauche, à droite. On est dans toutes les conventions. On est dans toutes les conférences. Voyez-vous, partout. Des voyages à gauche, à droite. Quelqu'un m'avait vu, un pasteur. Il dit, pasteur, il commence tout de suite, c'était une sorte de jugement ou de préjugé. Il me dit, nous savons, pasteur, que vous ne pouvez pas aller dans les petites églises. Je dis, dans les petites églises, pourquoi? Elle dit, oui, mais si nous vous invitons, est-ce que vous viendrez? Je dis, mais mon frère, là, déjà, vous avez des a priori négatifs sur moi. J'ai déjà prêché dans les petites églises. Et alors? Mais seulement, je ne peux pas répondre à toutes les invitations. Je veux être là où Dieu est. À ce moment-là, je deviendrai une bénédiction pour les gens qui m'auront invité. Et non pas provoqué. Appeler des gens, « Hey, master, j'ai entendu que tu organises une conférence. Il ne faut pas m'oublier, hein ?» Voilà. « Ah, j'ai appris que vous organisez une conférence, une convention. Depuis quelque temps, j'ai été reconnu prophète. » C'est dans des conventions comme ça que je peux bien exercer mon ministère. On cherche à prêcher. Mes amis, c'est ce qui nous tue aujourd'hui, cet opportunisme, cet aventurisme. Parce que les gens veulent être absolument reconnus, alors ils font tout pour se mettre des galons. Afin que lorsqu'ils passent quelque part, qu'on dise, oh, c'est le bishop. Ah, c'est le prophète. C'est la prophétesse. Ah bon, oui. C'est l'apôtre. C'est le super apôtre. C'est le patriarche, voyez-vous. Et on pense qu'avec ces titres, eh bien, on deviendra plus que serviteur. Faux et archi-faux. Dans la plupart des cas, ces titres sont là pour satisfaire le moi, pour satisfaire des ambitions qui jusque-là étaient cachées. Vous n'avez pas pu émerger dans le monde. Vous n'avez pas pu décrocher même un diplôme d'État. Le Seigneur vous appelle, au lieu de rester humble. Maintenant, vous montez sur votre chariot pour dire, c'est moi le pasteur ici, c'est moi l'apôtre, c'est moi ceci. Ce n'est pas ça qui fait le serviteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le serviteur selon Dieu, ou la servante d'après la parole de Dieu, n'a rien à voir avec le serviteur selon le monde. Lorsque Dieu nous appelle, et il nous appelle à être ses serviteurs, eh bien la première chose qu'il veut faire, c'est que nous puissions nous abandonner entièrement entre ses mains, afin qu'il puisse nous modeler, afin qu'il puisse nous façonner et nous rendre capables de contribuer à l'accomplissement de ses propres desseins. Contribuer, mes amis, à accomplir ses volontés. Pas nos volontés, mais sa volonté. Pas nos volontés. Je veux faire ceci, je veux être cela. Je me souviens, j'avais suivi par hasard un monsieur qui venait d'être consacré évêque dans un des mouvements ici à Kinshasa. Évêque, oui, je crois. Et puis quand on lui donne la parole, il dit, j'ai toujours aimé, j'ai toujours désiré être évêque. Et il y en a plein comme ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, des gens se lèvent. Ils se lancent à travers toutes sortes d'études bibliques, c'est bien. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait des études bibliques que vous êtes réellement appelé. C'est vrai que Dieu peut vous appeler alors que vous faites simplement des études bibliques pour vous-même. Mais aujourd'hui, c'est l'opportunisme, c'est l'aventurisme, et ceci freine véritablement l'œuvre de Dieu. C'est ainsi qu'on n'a jamais vu autant d'apôtres, autant de prophètes, autant de bishops, de quadrichopes, autant de groupes de prières, autant de ministères et même de fondations chrétiennes. On n'en a jamais vu autant à Kinshasa, mais aussi jamais on a vu une telle déchéance morale et spirituelle. La ville ressemble à une sorte de pétaudière, un Capharnaüm de l'impudicité, de l'idolâtrie, de la corruption, de la magie, de l'occultisme. Il y a plus de 30 ans, dans cette ville, au début, quand Dieu avait commencé à visiter cette ville, mes amis, nous avons vu des gens abandonner la Rose-Croix, abandonner la franc-maçonnerie, abandonner le maïkari, abandonner toutes ces pratiques démoniaques pour se tourner vers Jésus. On a vu des femmes prostituées tout abandonner. N'aké pas en dambe. Je pars auprès du Seigneur. Aujourd'hui, ces activistes francs-maçons, aujourd'hui, ces activistes rosicruciens viennent recruter dans nos églises. C'est la faillite de l'église. Aujourd'hui, regardez mes amis, et vous allez voir, l'église est de plus en plus impotente. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'aventuriers, de plus en plus d'opportunistes, des gens qui prétendent servir Dieu, mais en réalité se servent eux-mêmes. Des gens qui s'élèvent, soi-disant pour accepter l'appel de Dieu, mais qui s'élèvent pour accepter l'appel du mouvement. Parce que le représentant légal, c'est leur oncle. Parce que le représentant provincial, eh bien, c'est le cousin de l'oncle de la tante à maman. Oh, le Seigneur m'appelle. Ça, mes amis, tue l'Église. On a besoin des serviteurs. On a besoin des servantes que Dieu a appelées, mais aussi qui assument pleinement cette vocation, comme nous le verrons. Alléluia. Car la première raison d'être du serviteur ou de la servante, c'est d'expérimenter Dieu. C'est tout. Ce n'est pas d'avoir des possibilités de recevoir des dîmes à gauche, à droite. Ce n'est pas de se transformer, mes amis, en clochard spirituel, en troubadour, commencer à aller partout pour prêcher, etc. Il est appelé d'abord et avant tout à expérimenter Dieu. Voilà pourquoi nous avons organisé ce programme d'intercession stratégique autour de ce thème. Expérimenter Dieu, deux points. Connaître et faire la volonté de Dieu. Comment voulez-vous expérimenter Dieu si vous ne connaissez pas sa volonté? Et nous allons voir la volonté de Dieu. C'est d'abord et avant tout que nous expérimentons Dieu. Et pour cela, pour devenir serviteur, il y a tout un cheminement. Il y a tout un apprentissage. Puisque il ne s'agit pas de servir vaille que vaille. Il ne s'agit pas de servir comme telle ou telle autre personne dans l'histoire de l'humanité a servi. Il s'agit d'être serviteur comme Christ l'a été. Alléluia. C'est lui notre modèle par excellence. Si vous voulez savoir comment être et ou comment devenir serviteur ou servante, ici ce n'est pas avec les cinq appels, apôtres, etc. Non, ministère. C'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous appelés à être des serviteurs dans le royaume de Dieu, à être les disciples du Christ. Voyez-vous ? C'est lui notre modèle. Et si vous voulez être vraiment serviteur à la louange, à la gloire du Seigneur, si vous voulez l'honorer, si vous voulez le glorifier, eh bien, allez vous imprégner de sa vie. Allez voir comment lui, mes amis, a vécu. Voyez-vous ? Il est notre modèle, le modèle des serviteurs. Et nous trouvons dans la parole de Dieu de nombreux passages. Dans les Écritures saintes, de nombreux passages qui décrivent Jésus comme serviteur. Et d'ailleurs, un des titres du Messie promis, un des titres que nous trouvons dans la parole de Dieu concernant le Messie qui allait venir, c'est celui du Messie comme serviteur de l'Éternel. Vous pouvez trouver ça dans Ésaïe 52, on n'a pas le temps de lire. Ésaïe 52, versets 13 à 15, et Ésaïe 53, le 12 premier verset. Et vous allez voir que le tableau qui nous est brossé, qui nous est dressé concernant l'œuvre que le Messie allait accomplir, eh bien, c'est le Messie comme serviteur de l'Éternel, alléluia. Oui, le Seigneur est venu comme serviteur afin d'accomplir la volonté suprême de Dieu, de son Père. Quelle était cette volonté suprême? Eh bien, racheter l'humanité par sa mort et sa résurrection, alléluia. Et s'il y a un passage qui résume, mes amis, ce que Jésus a été, c'est-à-dire comment il a vécu comme un vrai serviteur. Eh bien, c'est le passage de Philippiens 2, j'aimerais que nous puissions lire ça. Éphésiens 2, 5 à 8. Voilà ce que la Bible nous dit. Ayez en vous la pensée ou les sentiments, ça dépend des versions, qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais qu'a-t-il fait? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Celui dont il est question était pleinement Dieu, hein, mais aussi pleinement homme. Et dans son humanité, voilà comment il est décrit. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tout est là. Nous ne pouvons pas servir véritablement si nous ne marchons pas sur les traces du Christ. Il a été envoyé par son Père. Il n'a rien fait qu'il n'ait reçu de son Père. Alléluia. Et nous le verrons. La relation qui unit le Père et le Fils est une relation d'amour. Lui-même le dira dans Jean. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il doit faire. Oh, alléluia. Comme le Fils, le Père m'a envoyé, moi aussi je... Ça veut dire quoi, mes amis? Si nous voulons être serviteurs selon le modèle biblique, eh bien, nous devons entretenir une relation avec Jésus comme celle qu'il avait et qu'il a avec le Père. Alléluia. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'onction, tout ce que vous voulez. Non, c'est là. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Voyez. Il a toujours vécu dans la proximité, dans l'intimité avec son Père. Il n'a pas fait les choses au hasard. Voyez-vous, c'est comme ça que quand il fait, avant de faire quelque chose, il s'est réveillé tôt le matin, il allait passer du temps avec son Père, alléluia. Et quand il descendait, il allait là où Dieu travaillait. Encore une fois, mes amis, Dieu est à l'œuvre autour de nous, en tant qu'individu, en tant que comme enfant de Dieu. Il est à l'œuvre en nous, mais il est aussi à l'œuvre autour de nous. Dieu est à l'œuvre dans Kinshasa. Maintenant, la grande question, où Dieu est-il en train de travailler? Qu'est-il en train de faire maintenant? Est-il en train de se manifester comme le Dieu qui appelle les pécheurs à la repentance? Est-il en train de se manifester quelque part comme celui qui baptise du Saint-Esprit? Est-il en train de se manifester comme étant le Dieu dont le règne est tout puissant, c'est-à-dire guérison, délivrance, etc.? Lui seul sait. Alors en tant que serviteur, ce n'est pas à moi de deviner. Ce n'est pas à moi de regarder avec mes yeux en disant, tiens, oh là là, il y a beaucoup de koulouna par là. Je vais aller là-bas. Vous voyez? Quand le Seigneur est venu, il y avait beaucoup de pécheurs, il y avait des bandits, des voyous. Il y avait des religieux, des orgueilleux et tout ça. Mais il n'a pas guéri tous les malades. Hein. J'ai pris l'exemple, je reviendrai là-dessus. L'exemple de Jean 5. Là, à la piscine de Bethesda. À la porte des brebis, à Jérusalem. Mes amis, il y avait une piscine. Et autour de cette piscine, il y avait 5 portiques. Et en dessous de ces portiques, il y avait une multitude de malades, nous dit la Bible. Il y avait des paralytiques, des estropiés. Il y avait des aveugles. Vous voyez? 5 portiques. Et dans chaque portique, il y avait des malades. Il y avait des gens qui étaient dans le besoin. Ils étaient tous concentrés en cet endroit-là parce que il arrivait que l'eau de la piscine s'agite par la descente d'un ange et que celui qui se jetait en premier dans cette piscine expérimentait la guérison. Mais il fallait être plus rapide. Ou alors il fallait avoir des gens comme Usain Bolt. Oui ou non? Ou Carl Lewis. Et ils sont là, ils attendent. Et encore, même si ils sont des gens les plus rapides, et encore il fallait discerner que non, le mouvement... Bap! Vous voyez? Ça demandait beaucoup. Beaucoup. Tous attendaient. Cependant, Christ est parti. Le Seigneur de gloire, qui était en tout et partout, dirigé par le Saint-Esprit, qui était dans la pensée du Père, a vu là où Dieu travaillait. Oh, alléluia! Il est parti vers cet homme grabataire, cet homme cloué au sol à cause de sa paralysie, cet homme qui était malade depuis 38 ans. Il va opérer un miracle. Mon Père travaille, dira-t-il plus tard, aux Juifs qui avaient réagi en disant, mais c'est pas possible. Comment cet homme peut guérir un malade le jour du sabbat? Vous voyez la religion, vous voyez la loi, vous voyez les traditions, vous voyez la lettre. C'est Shabbat, donc on ne peut rien faire. Dieu est au-dessus du Shabbat. Oh, alléluia. Ne lui imposons pas des limites. Laissons-nous diriger par lui. Lui seul est en train de travailler au moment où je vous parle. Dans ta propre famille, Dieu est en train de travailler. Mais tu dois savoir ce qu'il est en train de faire, et puis ensuite, en restant attaché à lui, eh bien, il va te faire entrer dans ce qu'il fait. Et là, tu vivras sa gloire. Parce que trop souvent, on ne voit que les besoins qui sont au loin, alors que son propre mari est là, on le néglige. Alors que ses propres enfants sont là, on ne fait rien pour les gagner à Christ. Mais on ne voit que les koulounes, c'est bien d'aller leur rapporter le message de l'Évangile. Mais est-ce que Dieu te demande d'aller à ce moment-là? Il y a peut-être le voisin. Dieu est en train de travailler auprès du voisin. Au lieu de vouloir aller trop loin, il est là, le voisin. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire auprès du voisin? Mes amis, voilà. Et toute cette série d'enseignements va nous aider à discerner, à connaître sa volonté, et à vivre sa volonté. Car nous verrons que même dans l'accomplissement de ses volontés, c'est Dieu qui est appelé à être à l'œuvre. Il est dit de David. Et c'est d'ailleurs le témoignage, j'ai touché un tout petit peu, j'ai parlé de ce texte le vendredi, acte 13. Écoutez, c'est que le Seigneur lui-même dit à propos de David. Le verset 22, acte 13. Après l'avoir écarté, donc après avoir écarté Saül, qui avait désobéi, etc., comme roi d'Israël, il leur suscita pour roi David. Regardez. Auquel il a rendu ses témoignages. Qui a rendu ses témoignages? Qui a rendu ses témoignages? C'est Dieu lui-même. Hein? Alors, quel est le témoignage que Dieu a rendu à David? Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, et j'aime beaucoup cette précision, pour nous dire, lui aussi est né comme vous et moi. Il n'est pas tombé du ciel. Non. Il n'a pas été le résultat d'une aventure entre un archange et sa maman. Non, c'était le fils d'Isaïe. Il était connu dans leur village de Bethléem. Vous voyez, quand le petit David marchait, tout le monde savait que c'est le fils de tel. Alors, je reviens. Acte 13. Auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, lisez la suite, qui accomplira toutes. Ce sont les volontés de Dieu. Oui ou non? Mais nous, nous prions souvent, Seigneur, montre-moi ta volonté pour ma vie. Nous revenons à notre texte. Dans cette métaphore, c'est-à-dire de l'argile et du potier, dans cette image, nous sommes, nous, l'argile. Et lui est le divin potier, n'est-ce pas? Et le potier est appelé à travailler la glaise, l'argile qu'il a entre ses mains, pour en faire un instrument de son choix, encore une fois. Donc, l'argile n'est pas là pour aider le potier en lui disant, voilà, moi j'aurais aimé, tu vois, je vois que tu es en train de me donner cette forme, mais moi, je pourrais ajouter... Non! Du commencement jusqu'à la fin, le potier est maître de son ouvrage. Il est appelé à travailler l'argile pour en faire un instrument de son choix. Il a donc un plan. Il a donc un objectif. S'il donne telle forme à l'argile, ce n'est pas par hasard. Non! C'est parce qu'il y a un besoin. C'est parce qu'il veut utiliser cette argile à laquelle il a donné cette forme comme un instrument pour accomplir ses desseins à lui. Et pour ce faire alors, l'argile doit faire deux choses. L'argile doit remplir deux conditions fondamentales. Ce sont des choses qui doivent se passer en amont pour que alors l'argile devienne en aval une bénédiction. Alléluia. Et pour le potier qui lui aura donné telle ou telle autre forme, mais aussi pour ceux qui auront bénéficié de cette forme que Dieu aura faite à partir de l'argile. Donc, deux conditions, et nous terminerons par là. Puisqu'il y a tellement à dire. Deux conditions que l'argile doit remplir pour permettre au potier, et en l'occurrence au divin potier, c'est-à-dire au Seigneur, pour lui permettre de travailler, de nous travailler, nous qui sommes l'argile. Premièrement, première condition, l'argile doit être modelable. Ah, l'argile doit être malléable. Façonnable, maniable, pétrissable, malaxable, sensible entre les mains du divin potier. Voilà la première condition. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec une argile qui est sèche, qui ressemble à un morceau de pierre? Et donc la première condition, c'est ça. Et nous devrions, par rapport à cette première condition, le comprendre. Au lieu de nous précipiter à vouloir servir Dieu par tous les moyens, mais plutôt dire, Seigneur, quelle est ma nature en tant qu'argile? Est-ce que je suis maniable? Est-ce que je suis modelable? Est-ce que je suis façonnable? Est-ce que je suis pétrissable? Qu'est-ce que le boulanger fait avant de faire le pain? Il a une pâte. Il va mélanger selon ce qu'il veut faire. Voyez-vous, soit du pain, mais le même pain, ça peut être du pain blanc, ça peut être du pain gris, ça peut être du pain avec des épices, oui ou non. Donc, celui qui décide, mes amis, et encore pour faire du pain, celui qui va donner la forme. Il y a des pains carrés, il y a des pains ronds, oui ou non. Et donc, ce n'est pas à la pâte de dire, moi j'aimerais que tu me fasses un croissant. Car généralement, ce sont les gens qui ont des moyens qui vont me manger. Oh, j'aimerais faire les délices de tous ces gens qui sont bien. Au lieu de faire de moi un lit, comment on dit encore, pain, victoire. On va m'exposer sur le route, n'est-ce pas? Et là, je vais être au contact avec la poussière et tout ça. Non, je ne veux pas. Fais de moi un pain gris. D'abord, je vais coûter cher. Et de par mon prix, je ne me retrouverai pas sur la route. Avec telle ou telle autre femme, je ne serai pas exposé au soleil. Je ne serai pas exposé à la pluie. C'est-à-dire, à un certain moment, la pluie vient, la personne chargée de s'occuper de moi me prend, et quelquefois, avec indélicatesse, je bouge, ça me fait mal, elle va s'abriter. Non. Le boulanger, oh alléluia, reste maître de sa pâte. Alléluia. Gloire à Dieu. Et avec sa pâte, il va faire ce qu'il veut. Mais ce qu'il fait là, sa volonté, c'est pour rencontrer des besoins. Il sait que dans ce coin, les gens aiment beaucoup les croissants. Alors, il va faire plus de croissants que de pain, etc. Voilà la première condition. L'argile doit être malléable. Alors, arrête de courir, mon frère. Ça ne sert à rien d'avoir un cœur en pierre et de vouloir servir partout. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est toi qui l'intéresse d'abord. C'est ton cœur qui l'intéresse plus que tout. Alors, quel est son état? Est-ce un cœur malléable? Est-ce un cœur façonnable? Un cœur modelable? Voilà la première condition. Car sans cela, le potier ne pourra rien faire. Il aura entre ses mains une argile sèche, dure comme de la pierre. Ben, elle va rester là. Simplement par amour. Hein? Parce qu'il fait tout par amour. Et puis le moment venu, l'argile s'en va. Et quand l'argile arrive de l'autre côté, le Seigneur lui dit, tu vois, j'aurais voulu faire de toi ceci ou cela, parce que là où tu étais, c'est moi qui t'avais placé, et je voulais faire de toi un instrument pour rencontrer les besoins autour de toi. J'étais à l'œuvre autour de toi. Moi seul connaissais les vrais besoins. Mais tu ne m'as pas donné l'occasion. Et beaucoup se diront, Seigneur, malheur à moi. Certes, sauvé, mais comme à travers le feu. Deuxième condition, on va terminer par là. Deuxième condition. L'argile doit demeurer dans les mains du potier. À aucun moment, elle doit quitter les mains du potier. Le potier lui a donné une forme. Voyez-vous? Eh bien, l'argile ne doit pas se dire, enfin, il a fait de moi un vase qui doit accueillir quelque chose. Un vase qu'il a fait pour mettre de l'eau. Parce que Dieu a vu que de ce côté, les gens ont soif. Puisqu'ils ont soif, n'y a que lui qui peut rencontrer cette soif. Alors pour aller vers ces gens et leur apporter l'eau, il a besoin d'un vase. Et comme il a l'argile entre ses mains, quel outil va-t-il faire? Un vase. Après avoir fait le vase, c'est encore lui qui remplit le vase. Donc il n'y a pas que la forme, il y a le contenu. Et c'est seulement après qu'en restant entre ses mains, eh bien, qu'il va nous conduire et nous allons être une bénédiction pour ceux qui sont là-bas, parce qu'à ce moment-là, Dieu travaillant auprès d'eux, Dieu a préparé leur cœur, car il a vu que leur cœur avait soif, et il a préparé la solution pour eux. Oh, alléluia! Gloire à Dieu! Donc, s'il fait une tasse, et nous terminons par cette illustration, je reviendrai là-dessus. Jérémie, tu peux te mettre là, s'il te plaît. Ma sœur, ici. Mon frère, là. Maintenant, venez tous les trois devant. Regardez bien. Tout autour de vous, vous êtes l'argile entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Les gens que vous voyez ici ont des besoins. Les gens derrière vous ont des besoins. Les gens ici ont des besoins. Il n'y a qu'un seul qui connaît les vrais besoins. Il n'y a que lui, le divin potier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que de ce côté, les gens se trouvent dans un contexte où il fait très froid. Ils ont besoin de se réchauffer. Donc ils ont besoin de prendre du café chaud ou du thé. Vous ne le savez pas. Les gens ici ont faim. Ils ont besoin d'un bon foufou. Avec comme condiment, c'est lui qui décide. Voilà. Il dit, voilà un poisson, parce que le poisson, c'est plein de potassium, parce qu'il a vu qu'ils sont carencés en potassium, dans d'autres vitamines et tout ça. Donc, il a ce qui va accompagner le foufou. Là. Ceux qui sont ici, tout baigne dans l'huile. Il y a des moments, hein. L'huile de la réussite, du succès. Donc, ils ont besoin de continuer dans ces rayons de soleil divin. Donc, Dieu voudrait leur montrer qu'il est là pour les réjouir. Donc, ils ont besoin d'un beau bouquet de fleurs, comme seule maman Marie-Jules sait le faire. Donc, vous ne le savez pas. Alors, le danger, c'est quoi? C'est de vous laisser conduire par vos yeux. De regarder, non, je devine, hein, parce qu'ils font ça. Il y a peut-être ceci. Regardez là-bas, je pense qu'il y a ceci. Je pense qu'il y a cela. Alors, qu'est-ce que le divin potier va faire? Ceux qui ont besoin d'admirer le fleur, d'être en contact avec tout ce qui est poétique et tout ça, il prend l'argile qui s'appelle Jérémie. Il en fait un pot. Donc tu deviens un pot. Il prend des fleurs, il met dedans. Ok? Il va, comment t'appelles? Hein? Christelle. Christelle, les gens ont faim. Il fait quoi? Il fait une assiette avec l'argile. Avec un côté pour le foufou et l'autre côté pour le poisson de vraie tilapia. C'est ce que tu deviens. Et de ce côté, les gens ont froid et tout ça, il fait une tasse. Et encore, il sait que ce n'est pas vraiment du thé. Ceux qui sont là-bas, c'est le café. Alors, non seulement il vous donne ces formes-là, mais il remplit lui-même selon le besoin. Alléluia! Il met le café, il met le foufou et le poisson, il met le fleur. Alors, en restant attaché à lui, en vous laissant conduire par lui, car le chemin pour aller rencontrer le besoin ne se trouve pas auprès d'un pasteur. auprès d'un bishop, auprès d'un apôtre. Non. Jésus a dit, oh j'aime beaucoup ça, depuis quelque temps ma femme est là, je suis dedans, je nage dedans. Jésus a dit, je suis le chemin. Donc pour l'accomplissement de ce besoin, tu n'as pas besoin d'aller demander au prophète, qu'est-ce que tu dis? S'il y a une prophétie, c'est pour t'encourager, pour te dire que tu es en Christ. Continue comme ça, et en continuant, vas-y, vas-y, tu vas aller te retrouver là, toi une tasse, qu'il aura, reste debout, qu'il aura rempli de café. À ce moment-là, en tant que tasse, tu passeras devant et chacun prendra, boira. Et notre sœur Christelle, la même chose, rentre. Eh bien, tu as le foufou, reste debout, eh bien, tu donnes le foufou. Et les gens mangent, tu passes. Et lui, Jérémie, puisque ces gens ont besoin de fleurs et tout ça, tout ce qui tourne, la beauté, la poésie, etc., eh bien, tu te mets là en tant que pot rempli de fleurs. Alléluia! Maintenant, vous pouvez vous rasseoir. Le danger, c'est quoi? Dieu t'a fait tasse pour un besoin. Dieu t'a fait assiette pour un besoin. Il t'a fait pot ou amphore pour un besoin. Le danger, c'est de croire que désormais, je suis une tasse. Je vais là-bas, je suis une tasse. Donc, d'abord, tu n'es plus entre les mains du Seigneur. Tu restes une tasse alors qu'eux n'ont pas besoin de boire du café. Ils ont besoin d'un bon foufou. Et donc, tu vas servir à rien. Ça va te faire plaisir, je suis tasse. Mais ils auront déjà bu là-bas. Voyez? Ils auront déjà bu, tu n'en auras rien. Tu vas simplement faire passer la tasse entre les mains, ça peut leur faire du plaisir, mais il n'y a rien. Le fin est toujours là, la fin est toujours là. Voyez-vous? Ou alors c'est de croire que désormais, je suis appelé à n'avoir que des fleurs qui exhalent du bon parfum, qui réjouit le cœur, etc. Non, c'est le divin potier qui, en fonction de besoin, va vous donner la forme qui lui convient. Et par rapport à la forme et en fonction de besoin, va donc mettre le contenu. Et après avoir mis ça, il ne nous demande pas de le laisser dire, maintenant, tikanga. Voilà, allez, mangez, mangez. Non! Il veut aller avec nous jusqu'au bout. Alléluia! À ce moment-là, lui accomplit ses objectifs. Voilà pourquoi je vous avais dit, je vous le répète, Dieu est à l'œuvre tout autour de nous. Nous devons simplement discerner. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce message. Combien de fois nous avons été distraits. Nous avons voulu nous rendre utiles par nous-mêmes. Combien de fois, Seigneur, nous avons versé dans l'activisme. Nous avons voulu faire les choses par contrainte, par devoir religieux. Et quelquefois, nous avons essayé d'agir à contre-cœur. Tu ne nous demandes pas cela. C'est que tu attends de nous, que nous soyons une pâte malléable, pétrissable. Que nous soyons l'argile entre tes mains, mais de l'argile modelable, de l'argile malléable. Afin que toi, ô Dieu, alors que nous sommes entre tes mains, tu puisses nous donner la forme qui nous convient. Et après avoir nous donné la forme, que tu puisses mettre dans cet instrument ce dont ceux qui sont dans le besoin ont besoin. Alors aide-nous à ne plus agir par aventurisme, par opportunisme. Aide-nous à rester de l'argile malléable entre tes mains. Au nom de Jésus.